France Inter, franceinter.com.
Bonjour, aujourd'hui en partenariat avec un numéro spécial de Courrier International consacré au terrorisme, de Robespierre à la bande à Bonneau, les origines du terrorisme moderne. La révolution exige de la classe révolutionnaire qu'elle mette tous les moyens en œuvre pour atteindre ses fins. Par l'insurrection armée s'il le faut, par le terrorisme si c'est nécessaire. Léon Trotsky, terrorisme et communisme. Mille ans d'histoire. Avant de lancer leurs avions sur les deux tours du World Trade Center, les terroristes d'Al-Qaïda n'avaient probablement jamais entendu parler de Robespierre, de Ravachol ou de la bande à Bonneau. Ni sans doute jamais lu Bakounine, Malatesta, Kropotkin ou Netchaïev. Mais leur terrorisme s'inspirait pourtant d'une tradition qui, pour d'autres causes que la leur, avait conduit la Révolution française à mettre la terreur à l'ordre du jour, pousser les anarchistes à assassiner un président de la République française, un roi d'Italie et un président des États-Unis, et les nihilistes russes à jeter une bombe sur le tsar Alexandre II. Qu'ils agissent au nom d'un État ou pour le renverser, par désespoir ou par fanatisme, pour des raisons politiques ou religieuses, les terroristes du XIXe siècle sont à l'origine du terrorisme moderne. Même celui qui, avant de mourir le 28 avril 1912, avait donné à des crimes de droit commun l'apparence d'un combat révolutionnaire.
Chef, Bonneau est avec eux.
Sacré Dieu! Chien de flic.
Je suis un homme célèbre. La renommée claironne mon nom aux quatre coins du globe. Il y a de quoi rendre jaloux ceux qui se donnent tant de peine pour faire parler d'eux. Ce que j'ai fait, dois-je le regretter? Non. Et s'il fallait continuer, je continuerais. Ce dernier moment est le nôtre. Cette agonie est notre triomphe. Tout homme a le droit de vivre sa vie. Et puisque notre société imbécile et criminelle prétend me l'interdire, eh bien, tant pis pour elle. Tant pis pour vous. Tant pis pour nous tous. Je meurs. Vive l'anarchie.
Philippe Thureau-Dangin, bonjour.
Bonjour Patrice.
Vous êtes directeur de la rédaction de Courrier International qui vient de sortir un numéro hors série sur le terrorisme et où l'on retrouve aussi bien la bande à Bonneau que les terroristes qui ont détruit les tours du World Trade Center. Qu'est-ce que peuvent bien avoir en commun les anarchistes de la Belle Époque et les islamistes d'Al-Qaïda?
D'abord les différences. Je vais plutôt parler des différences qui sont évidentes, c'est-à-dire que les terroristes actuels, notamment ceux d'Al-Qaïda, pratiquent un terrorisme au nom de leur religion, principalement, alors que la bande de Bonneau, comme les anarchistes du XIXe siècle, le pratiquaient au nom de la guerre sociale, au nom effectivement de l'injustice et de ce qui s'est passé de l'histoire. Et sinon, la bande à Bonneau, c'est 1911-1913, il pratique ce qu'on appelait alors l'illégalisme. C'est-à-dire que, et qui était prôné par les journaux anarchistes, notamment l'Anarchie, où écrivait celui qui va devenir Victor Serge. Et l'illégalisme, effectivement, est revendiqué par Bonneau. Et c'est le fait, effectivement, de détruire l'ordre établi en ne respectant aucune loi.
Il y a aussi, d'ailleurs, Courrier International le rappelle, notamment votre éditorial, l'importance des médias. Au fond, ils agissent aussi parce qu'ils savent que leurs actions auront un retentissement considérable.
Alors ça, c'est le cas, effectivement, notamment des anarchistes. Et on voit bien que la vague anarchiste ou nihiliste au 19e, ou la bande à Bonneau au début du 20e, arrive à un moment donné où c'est un peu le triomphe de la presse populaire et de la presse quotidienne, qui effectivement fait une chambre d'écho. Et sans cette chambre d'écho, effectivement, l'action terroriste reste lettre morte et n'a pas de conséquences. Or, l'idée terroriste, c'est par l'intimidation, par effectivement l'action violente, l'assassinat, le régicide, vous l'avez dit, eh bien, c'est d'essayer de déstabiliser l'ordre, de déstabiliser la société. Et pour cela, les médias sont importants.
Alors, le terrorisme aussi, vous le rappelez bien, il a servi toutes les causes. Évidemment, on l'utilise pour stigmatiser l'action, la violence employée par un adversaire. Mais toutes les causes l'ont employé, que ce soit des causes politiques, nationales ou religieuses, et même les États. Et d'ailleurs, le mot terrorisme apparaît d'ailleurs pour la première fois dans le dictionnaire de l'Académie française en 1798, qui dit « système, régime de terreur ». Il s'agit alors d'un terrorisme d'État, celui que viennent de pratiquer les révolutionnaires de 1793. C'est Robespierre qui a mis la terreur à l'ordre du jour.
Oui, on peut même citer Robespierre. Robespierre parle d'une terreur sans laquelle la vertu est impuissante. C'est-à-dire qu'à l'époque, dans son esprit, dans celui de Saint-Just en tout cas, la terreur n'est pas de l'ordre du mal. Elle est au contraire nécessaire pour purifier la société. Et effectivement, il y a eu ensuite des études qui ont montré que c'était un terrorisme d'État ou un terrorisme en gros, alors qu'effectivement, après, au cours du XIXe siècle, sera pratiqué un terrorisme de détail, c'est-à-dire par des individus isolés, non pas par la puissance publique.
Et un terrorisme contre l'État, c'est-à-dire celui des anarchistes qui apparaissent au milieu du XIXe siècle. Ça, c'est un terrorisme qui veut détruire toutes les formes de l'État. C'est le cas de Proudhon, c'est le cas de Bakounine, par exemple, les grands théoriciens de l'anarchisme.
Et c'est ça, c'est-à-dire que tout au long du XIXe siècle, vous savez, il y a Marx et les marxistes, et puis il y a à côté des gens pour qui le marxisme n'est pas assez radical, ou du moins qui ne supportent pas l'idée qu'il y a encore un État, et au fond, Proudhon ou Bakounine dit non, il faut créer une société sans État. Et c'est ça, et il ne faut pas imaginer une dictature du prolétariat comme le voulaient Marx et Engels. Et donc là, il va y avoir une scission importante, comme vous le savez, en 1872, lors du congrès des révolutionnaires. De là va naître finalement la branche anarchiste, qui ne sera jamais aussi coordonnée que l'internationale communiste, mais on verra effectivement des groupuscules, des individus isolés, prendre au mot à la fois les Bakounine et les autres. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire un parallèle avec Al-Qaïda, c'est un peu du même ordre, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une organisation, mais on sait aussi qu'il y a beaucoup de cellules isolées et qu'il y a même des individus isolés qui agissent de la même façon que pouvaient le faire les anarchistes entre 1870 et 1910.
Qui niait toute forme d'État, toute forme de constitution. Il y avait Rochefort qui avait imaginé une constitution pour les anarchistes de la manière suivante. Article 1er, il n'y a plus rien. Article 2, personne n'est chargé de l'exécution du précédent article. Alors il y a d'autres théoriciens. Il y a également Malatesta en Italie. Je crois que c'est lui qui a inventé le mot propagande par le fait que Kropotkin va également imposer à l'international.
Si je peux vous contredire sur ce point, c'est en fait Paul Brousse, c'est l'anarchiste français Paul Brousse qui, lors des obsèques de Bakounine, dans son discours sur la tombe de Bakounine en 1876, invente le mot propagande par le fait, alors qui a été reprise effectivement par les Italiens très vite.
Malatesta et puis aussi Kropotkin, qui va d'ailleurs, ce mot va apparaître dans un congrès de l'International, c'est-à-dire l'Association internationale du travail. L'heure est venue, dit-elle en 1881, de passer à l'action et de joindre à la propagande verbale dont l'inefficacité est démontrée à la propagande par le fait, c'est-à-dire au terrorisme.
L'Association internationale des travailleurs qu'ils viennent de créer à Londres marche très bien. Ils ont de plus en plus d'adhérents. Pour la première fois, les travailleurs du monde entier vont s'unir pour lutter à armes égales avec le patronat.
Des bêtises. Votre Karl Marx, il en est encore à croire à l'évolution des forces naturelles. Il faut allumer le feu aux quatre coins des villes, il faut tout raser, quand il ne restera plus rien dans ce monde pourri. Peut-être en repoussera-t-il un meilleur.
Je crois pas qu'on doive en arriver là. L'ouvrier seul n'est rien, rassemblé représente une force. Il faut rebâtir un monde propre, avec plus de justice, légalement.
Augmenter les salaires dans le cadre d'une économie capitaliste, c'est du rêve. Faut tout détruire. L'anarchie, plus rien. La terre lavée par le sang, purifiée par l'incendie. Après, on verra.
Dans la grande ville de Paris,
dans la grande ville de Paris,
il y a des bourgeois bien nourris,
il y a des bourgeois bien nourris.
Il y a les miséreux qui ont le ventre creux. Ceux-là ont les dents longues,
vive le son, vive le son.
Ceux-là ont les dents longues, vive le son de l'explosion.
Dansons la ravachole, vive le son, vive le son. Dansons la ravachole, vive le son de l'explosion.
Il y a les magistrats vendus,
il y a les magistrats vendus.
Il y a les financiers ventrus,
il y a les financiers ventrus.
Il y a les argousins, mais pour tous ces coquins, il y a de la dynamite,
vive le son, vive le son.
Il y a de la dynamite, vive le son, l'explosion.
Dansons la ravachole, vive le son, vive le son. Dansons la ravachole, vive le son, l'explosion.
Et c'était les quatre barbus, la ravachole, sur l'air de Saïra, la ravachole, qui est une chanson composée en 1893, au moment d'ailleurs où la France connaît, avec Ravachole en premier, une vague de terrorisme comme elle en a rarement eu, même jamais eu encore de son histoire.
Oui, oui, c'était la grande inquiétude hein, des pouvoirs publics et des milieux bien pensants, parce que effectivement, ça partait de partout. Il y avait des gens comme Ravachol qui étaient un peu comme la bande à Bonneau, hein, entre l'anarchisme et le droit commun, parce que Ravachol a tué des gens pour avoir de l'argent, etc. Mais il a aussi tué par exemple des magistrats pour venger d'autres anarchistes. Donc, il était effectivement une sorte de héros des milieux anarchistes au début des années 90.
Et condamné à mort, exécuté en 1892. D'ailleurs, vous parlez de vengeance. Immédiatement après, ça continue. Il y a Théophile Meunier qui fait exploser une bombe dans le restaurant où Ravachol a été arrêté. Une autre à la caserne Lobo aussi, où avaient été fusillés les communards. On agit par vengeance, on agit aussi souvent par désespoir. C'est le cas, par exemple, d'Auguste Vaillant.
Ben oui, Auguste Vaillant, c'était quelqu'un qui n'arrivait pas à nourrir sa famille, qui était un enfant du peuple, hein, et qui, par désespoir, décide de faire quelque chose de spectaculaire. Et il
fabrique une bombe.
Voilà, il fabrique une bombe et il va à l'Assemblée nationale, effectivement, la déposer. Il n'y a pas de mort. Mais c'est là aussi, l'effet donné par cette bombe en plein cœur du pouvoir politique est énorme. Et le président Sadi Carnot, finalement le gracie, il est envoyé au bagne, mais il n'est pas tué. Et pourtant, effectivement, la presse anarchiste avait dit que si Vaillant était tué, eh bien Sadi Carnot, lui, serait assassiné. Et pourtant, ça n'a pas empêché, 2 ans plus tard, le président Sadi Carnot, qui avait pourtant donné la grâce à Vaillant, d'être lui-même assassiné par un anarchiste italien.
Caserio, oui.
Voilà, parce que l'Italie était en fait à l'époque aussi un grand vivier d'anarchistes, un peu dans toute l'Europe.
Et puis alors justement, quand on parlait de désespoir, Vaillant à son procès qui dit « J'aurai au moins la satisfaction d'avoir blessé la société actuelle, cette société maudite où l'on peut voir un homme dépenser inutilement de quoi nourrir des milliers de familles, société infâme qui permet à quelques individus d'accaparer les richesses sociales, haine aussi de la société », alors que l'on va retrouver également dans un autre type, dans la forme la plus radicale qui a pu prendre le terrorisme, d'ailleurs au même moment et un peu même avant les anarchistes français, une forme radicale incarnée, le nihilisme incarné par Netchaïev, un des héros d'un roman de Dostoïevski, Les Possédés.
C'est vous qui allez changer ce vieux monde ?
Oui, exactement comme tu le voulais. Tu te souviens, tu disais, il ne faut faire aucune concession à l'injustice. S'il faut être dur, il faudra frapper sans pitié. Tu as raison, c'est indispensable.
Vous seriez prêt à couper des têtes ?
Évidemment, 3 fois plus de têtes s'il le faut que les Jacobins français.
Il est plus facile de couper des têtes que d'avoir des idées.
Et nous frapperons, dent pour dent, comme dans l'Évangile.
Malheureux, ce n'est pas dans l'Évangile.
Mon diable ! Je n'ai jamais lu ça, t'as des bouquins. Je n'en ai lu aucun, d'ailleurs. Ce qui compte, c'est le progrès. On n'a plus besoin de livres.
Victor Hugo
n'est qu'un vieux cul. Et Shakespeare, nos paysans n'ont pas besoin de Shakespeare, ils ont besoin de chaussures.
Et ensuite, qu'arrivera-t-il ?
J'en sais rien. Tu appartiens à une génération qui disparaît. Tu poses des questions idiotes. Moi, je suis d'abord ici pour détruire. D'autres bâtiront. Le plus vite on commencera à détruire, mieux c'est. Écoute, nous soulèverons la Russie. Une brume épaisse descendra sur la Russie. La terre pleurera ses anciens dieux.
Personne n'est avec vous.
Mais si. Écoute, d'abord les bandits, bien sûr, mais aussi beaucoup d'autres qui ne le savent pas. Le maître d'école qui se moque de Dieu devant ses élèves, lui aussi, il est avec nous. Même des écrivains, des journalistes, sans le savoir. Le crime n'est pas une anomalie, Nicolas, il est presque devenu un devoir moral. Une protestation généreuse.
Alors avec un homme comme Netchaïev en Russie, qui était d'ailleurs un proche de Bakounine, On n'est plus dans l'anarchie, là, on est vraiment dans le nihilisme.
Alors, le nihilisme russe, c'est assez intéressant parce que c'est pas tout à fait le nihilisme au sens où on l'entend, nous, on ne croit plus à rien, etc. C'est en fait un mouvement intellectuel, d'abord, avant d'être un mouvement politique, et qui fait qu'en Russie, on a envie de se dégager de cette espèce de pouvoir oppressant de la société, de l'Église orthodoxe. Et entre les années 1850 et 1865, c'est un mouvement qui prend un peu toute l'intelligentsia, une partie de l'aristocratie, etc., et qui fait beaucoup d'adeptes. Et puis après, il va y avoir une sorte de radicalisation, il va y avoir la création de sortes de petits mouvements sectaires, dont celui de Netchaïev, mais qui est très très petit, et d'autres, d'un mouvement populiste, et qui effectivement passe à l'action là aussi, et passe à l'action violente, en tuant d'abord des magistrats, des rentiers, puis après, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en s'attaquant à l'empereur lui-même, Alexandre II.
Mais alors, vraiment avec le culte de la violence, presque pour la violence. Quand Netchaïev est, avant d'être arrêté, il est arrêté en 1872, il avait écrit avec Bakounine d'ailleurs, le catéchisme révolutionnaire, dont je lis quelques extraits. Le révolutionnaire est un homme condamné, il n'a pas d'intérêt propre, pas de liaison, pas de sentiment, pas d'attache, pas de bien, pas même de nom. Tout en lui est absorbé par un seul et unique intérêt, une seule pensée, une seule passion, la révolution. Et il ajoute, il ne connaît qu'une seule science, la science de la destruction. Il est un ennemi implacable de ce monde et s'il continue d'y vivre, c'est pour mieux le détruire. On a presque l'impression qu'il n'y a aucun projet politique derrière. On détruit, après on verra bien.
Alors Bakounine s'est séparé de lui assez vite.
Oui, à cause de ça.
À cause de ça. Et effectivement, chez Netchaïev, il y a l'idée qu'il faut aussi accentuer la souffrance du peuple pour qu'il se révolte. Et cette idée-là, en fait, on la retrouve à un certain nombre de moments d'histoire du terrorisme en disant qu'il faut créer les conditions du pire pour qu'il y ait un changement de l'ordre social ou un changement ou une révolte, un soulèvement d'une ethnie contre un pouvoir colonial, par exemple. On retrouve ce schéma-là et c'est Netchaïev qui l'invente, en fait, le premier, d'une façon effectivement assez brutale.
Avec cynisme, avec une froideur, se refusant tout sentiment, tout type d'émotion. D'ailleurs, il est arrêté par ce qu'il avait assassiné lui-même, un membre de la secte qu'il avait créée, la Société de la Hache, au début, ça s'appelait comme ça, qui s'appelait Ivanov, celui qu'il a, un étudiant qu'il a assassiné. Et donc, il est arrêté en Suisse, après avoir donc fondé ce petit groupe, et il a été ensuite enfermé à la forteresse Pierre et Paul pendant 10 ans, avant de mourir en 1882, au lendemain de l'attentat le plus spectaculaire des nihilistes, celui qui a tué le tsar Alexandre II, le 1er mars 1881.
Pendant que nous croisons les bras, on assassine nos frères dans les prisons.
La trêve est rompue. Il faut recommencer la lutte.
Mais tout de suite. Pas de pitié pour ces gens-là, je les hais.
Allons, allons, Catherine. Vous connaissez notre règlement. Nous ne devons mettre aucune haine dans nos délibérations. Fuir, oui. Tuer, oui. Haïr, non. C'est du temps perdu.
Chaque dimanche midi, le tsar se rend au manège Saint-Michel pour assister à la relève de la garde. Il n'y a que deux itinéraires possibles. La petite Sadovaya et le quai du canal Catherine. Cette fois, le tsar ne pourra plus nous échapper. Mes amis, n'écoutez plus les raisonneurs. Une révolution se fait d'abord avec des bombes.
Je suis d'accord. Je demande à être de ceux que vous désignerez pour cet attentat.
Toi, Vissakov ?
Il y a un oncle qui habite en face du canal Sainte-Catherine. De sa fenêtre, on peut surveiller la rue. Et jeter une bombe au moment exact où la voiture du tsar passera.
Ah, midi. Le cortège ne va pas tarder.
Alors l'attentat contre le tsar Alexandre II, c'est un des plus spectaculaires. En fait, à ce moment-là aussi, le terrorisme s'en prend dans le monde entier au chef des États, Philippe Thureau d'Angin. Et ça dans le monde entier. Par exemple, en Italie, l'anarchisme italien qui a tué Sadi Carnot va aussi s'en prendre, par exemple, au roi d'Italie, Humbert Ier.
Oui, et puis il y a des premiers ministres espagnols qui meurent sous les bombes. On essaye de tuer aussi le Kaiser allemand. Enfin, c'est assez général en Europe. C'est même présent à Chicago et aux États-Unis, avec des attentats aussi spectaculaires. Et
l'assassinat du président des États-Unis, président McKinley, en 1901. Oui.
Exactement.
Par un anarchiste d'origine polonaise, oui.
Et pourquoi ça? Eh bien, l'une des explications, c'est qu'il y a eu l'échec de la Commune en 1870-71, qui a été extrêmement important, qui ont montré à un certain nombre d'anarchistes et de révolutionnaires, eh bien, que les États continuellement se renforçaient et ne permettaient pas, effectivement, un changement passif. pacifique, disons, de l'ordre social. Et je pense que l'échec de la Commune, effectivement, a poussé tous ces gens-là à l'action terroriste. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à la fin du siècle, eh bien, les États prennent peur et commencent à constituer une sorte d'international antiterroriste. Et il y a un congrès en 1898 en Suisse ou en Italie, je ne sais plus, en Italie, je crois. Et la question, c'est jusqu'où doit-on torturer ? Peut-on extrader facilement, etc. Et donc, il y a les Anglais, les Suisses qui ne veulent pas extrader systématiquement les réfugiés politiques, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et on voit bien que entre ce qui s'est passé, effectivement, la réaction des États à la fin du 19e et ce à quoi on a assisté après septembre 2001, eh bien, c'est à peu près les mêmes choses.
Alors, après ce terrorisme anarchiste, il y a d'autres formes de terrorisme. On voit également réapparaître un terrorisme d'État. D'ailleurs, en Russie, l'État lui-même envoie des provocateurs. Certains des membres des groupes terroristes étaient eux-mêmes souvent des agents provocateurs, comme le Pope Gapone, par exemple, qui a fait la révolution de 1905. Et puis alors, un terrorisme utilisé par certains États, dont la Serbie, qui va faire assassiner par une organisation qu'elle contrôle, la Main Noire, qui va faire assassiner l'archiduc héritier d'Autriche, attentat qui allait déclencher la Première Guerre mondiale et qui s'est déroulé le 28 juin 1914 à Sarajevo, dans la capitale de la Bosnie, annexée par les Autrichiens en 1908.
Est-il vrai que les grandes manœuvres autrichiennes doivent avoir lieu en Bosnie, sous le commandement de son Altesse, l'archiduc héritier en personne?
La nouvelle sera officielle demain, mais je ne vois pas en quoi elle peut vous alarmer.
Et l'archiduc entrera à Sarajevo?
Il est tout naturel que son Altesse fasse à la capitale de la Bosnie une visite amicale.
Mais ne craignez-vous pas, monsieur le ministre, que quelques jeunes fanatiques soient tentés de la rendre plus complète encore?
D'ailleurs, vos craintes sont vaines. Les Bosniaques sont des sujets loyaux. Je suis persuadé que votre visite ne fera qu'augmenter les rapports de cordialité
qui n'ont jamais cessé de régner entre nos deux pays.
Son Altesse impériale, l'archiduc héritier François Ferdinand et madame la duchesse de Hohenberg.
Nous osons espérer que cette journée restera pour votre Altesse comme la preuve de notre fidélité, de l'attachement indéfectible de la Bosnie tout entière à la maison de l'Afro.
Par la volonté de conquête et d'hégémonie de quelques hommes, était créé le prétexte qui servit à déclencher la Première Guerre mondiale.
Alors ça, c'était l'attentat de François Ferdinand, le prétexte, hein, sinon la cause de la Première Guerre mondiale. Après quoi, on voit apparaître d'autres formes de terrorisme, Philippe Thureau-Dangin?
Oui, parce qu'en fait, le terrorisme anarchiste ou révolutionnaire, en fait, s'éteint à la fin du 19e, début du 20e. Pourquoi? Parce que la plupart de ces acteurs sont intégrés, n'y croient plus, comme Kropotkin, par exemple, ou sont intégrés dans le syndicalisme, qui marque des points, et ce qui sera appelé après
l'anarcho-syndicalisme.
Et puis ensuite, il y a la révolution russe, qui pratique une terreur d'État, comme Robespierre, mais c'est un peu différent. Et on verra, effectivement, bon, les scissions des partis communistes en Europe, avec effectivement l'intégration d'un certain nombre de révolutionnaires qui pourraient être tentés par ailleurs par des formes de terrorisme. Et en fait, le terrorisme comme forme d'action violente pour intimider sera en fait reprise plutôt par des mouvements nationaux ou nationalistes, que ce soit le mouvement sioniste en Palestine, ou que ce soit le FLN en Algérie, ou
Irlande aussi.
En Irlande, tout à fait, le mouvement irlandais depuis quasiment le milieu du 20e siècle. Et puis ensuite, les Tigres tamouls au Sri Lanka, enfin à Ceylan, ce qu'on appelle Ceylan.
Les Ustachis croates.
Voilà. Et donc, la revendication nationale, quand elle s'oppose à un pouvoir fort, eh bien, prend des formes terroristes extrêmement violentes. Et tout au long du 20e siècle, et ça va jusqu'au mouvement palestinien, ça va jusqu'à quasiment 1990, et où là, peut-être, il y a une rupture avec une nouvelle forme de terrorisme qui n'est plus simplement nationale ou ethnique, mais qui est d'ordre plutôt religieuse.
Oui, alors donc ça, c'est effectivement Al-Qaïda, c'est le terrorisme dont on parle le plus en ce moment. Qu'est-ce qu'il a de différent, justement, avec le terrorisme originel, celui du 19e dont nous avons parlé, Philippe Thureau-Dangin?
Je crois que les principes sont les mêmes, c'est-à-dire tuer pour intimider, tuer pour bouleverser l'ordre établi. En l'occurrence, pour Al-Qaïda, c'est tuer pour essayer d'imposer une sorte de califat sur tout le monde musulman, et avec aussi peu de scrupules que pouvaient l'avoir les plus des gens comme Ravachol ou comme Netchaïev, c'est-à-dire qu'on peut tuer éventuellement même son coreligionnaire, puisque c'est ce qu'on voit, et où on peut tuer des innocents aussi, qui n'ont aucun, qui ne sont ni magistrats, ni militaires, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Mais l'autre ressemblance, peut-être, c'est effectivement qu'il y a des groupuscules qui ne sont pas forcément très bien encadrés et qui veulent faire parler d'eux. Et il y a une sorte de surenchère. Alors après, les moyens ont changé. Vous avez parlé de détournement d'avions. C'était effectivement la mode, si je puis dire, dans les années 60-70. Aujourd'hui, ça peut prendre d'autres formes, notamment la bombe humaine, c'est-à-dire le principe du kamikaze, ou la voiture piégée qui a été inventée dans les années 20, dans les 1920. Et ce sont des nouvelles formes, mais au service de la même cause.
Mais c'était déjà le cas au XIXe siècle. La réussite des attentats terroristes était due au fait que la vie était totalement indifférente à ceux qui les commettaient. Ils s'attendaient même à être condamnés à mort s'ils ne mouraient pas, d'ailleurs, au moment de leurs attentats.
Oui, mais ils faisaient de leur procès une autre vitrine. Alors que là, le kamikaze, lui, se jette, disons, directement et utilise son corps comme bombe vivante. Ce que n'ont pas fait les anarchistes du 19e.
Un terrorisme contre lequel on semble totalement impuissant aujourd'hui, Philippe Thureau d'Angin.
En tout cas, la question de notre hors-série, c'est de nous interroger effectivement à la fois sur les méthodes, on vient d'en parler, sur l'étendue, sur l'importance des réseaux, notamment islamistes radicaux, et sur l'avenir de ce terrorisme. Alors, on a bien vu que les vagues terroristes ont une vie et puis s'arrêtent lorsqu'elles trouvent d'autres formes d'expression. Et on peut espérer que pour ce qui est d'Al-Qaïda, eh bien, un jour... ce sentiment d'humiliation qui est le terreau en fait du terrorisme, eh bien, se disparaîtra.
Merci Philippe Thureau d'Angin. Pour en savoir plus, je recommande donc la lecture de l'Atlas du terrorisme, hors-série de Courrier International, qui est actuellement dans les kiosques et qui évoque toutes les formes du terrorisme depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. À lire également l'histoire du terrorisme de l'Antiquité à Al-Qaïda, dirigé par Gérard Chalian et Arnaud Blin, publié aux éditions Bayard, dans une nouvelle édition de poche. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. La bande à Bono de Philippe Forastier, édité en DVD par Seven. Germinal de Claude Berry, disponible en DVD chez Pathé. Les Possédés d'André Jvajda. Katia de Robert Sionmark en DVD chez René Château Vidéo. Et Meyerling de Meyerling à Sarajevo de Max Ophuls, édité en VHS par Canal+. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Céline Bonhomme, documentation Emmanuel Fournier, Frédéric Martin, Claire Destacan et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac.